donnez-moi un F, donnez-moi un T, donnez-moi un R, donnez-moi un F, T, R.
Forstin Radio.
Forstin Radio. La radio qui fauche votre journée.
Nous poursuivons sur une chronique fort intéressante sur la Seconde Guerre mondiale. C'est parti.
Le 6 juin 1944, des troupes alliées arrivent sur les côtes normandes armées jusqu'aux dents pour libérer la France. C'est ce que les historiens appellent le débarquement. Cette période de l'histoire a marqué et marque encore aujourd'hui nos esprits. Sa leçon de vie demeure importante, surtout en ce moment.
Luna et Erwin présentent les grands progrès technologiques et scientifiques au cours de la Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement.
Et bonjour à tous, chers auditeurs. Pour les 80 ans du débarquement, mon collègue Erwin et moi-même, Luna, allons vous parler des 10 plus grands progrès technologiques et scientifiques de la Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement. Commençons par une remise en contexte de la situation à l'aube du 1er septembre 1939.
La Seconde Guerre mondiale commence en effet par l'invasion de la Pologne quelques années après sa création au crépuscule de la Première Guerre mondiale par le Reich allemand dirigé par le dictateur allemand Adolf Hitler en janvier 1933, à sa mort en avril 1945. Au tout début de celle-ci, les armes utilisées sont les mêmes que lors de la Première Guerre mondiale. La guerre de position est encore pratiquée. C'est pour cela que la France, croyant à une invasion allemande par l'Est, s'était retranchée derrière la ligne Maginot. Par ailleurs, les cuirassés des bateaux blindés, avec une puissance de feu impressionnante apparue au XIXe siècle, effectuent encore des batailles dites navales.
Mais au fur et à mesure que la guerre se poursuit, puisque la France a été vaincue très rapidement, on parle alors de Blitzkrieg, qui signifie « guerre éclair », car en quelques jours, les Allemands, après être finalement passés par le Nord, atteignent Paris. Donc pour l'ensemble des autres pays en guerre contre l'ennemi d'Outre-Rhin, des progrès technologiques vont avoir lieu, et ce jusqu'à la fin du conflit.
En effet, déjà quelques années avant le début de la Seconde Guerre mondiale, le 12 avril 1935, le Britannique Watson Watt obtient un brevet pour le système radar, capable de détecter un avion à 27 km à la ronde. Transféré aux Canadiens durant la guerre, ces derniers ont permis de développer l'indicateur panoramique, système encore utilisé de nos jours, qui permet de visualiser des cibles dont la position peut être facilement décrite en coordonnées polaires. Cela donne une sorte de cible dont le centre est l'emplacement du radar. Lorsque le choc du signal rencontre un obstacle, ce dernier est modélisé sur la cible. Ces systèmes de radar leur ont permis de remporter plusieurs victoires militaires contre l'envahisseur. Ensuite, la lampe alimentée par dynamo est une lampe torche conçue par les Japonais au cours des années 1940, puis utilisée surtout par leur armée durant cette guerre pour envoyer des signaux lumineux. Son mode de fonctionnement est simple, puisqu'il s'agit d'un système de dynamo qui charge la batterie quand on tourne la manivelle. Puis après l'avoir tourné plusieurs fois, il suffit d'enclencher l'interrupteur sur le côté droit et d'appuyer sur le bouton de la lampe pour éclairer. Vous avez tous une image en tête. Mais hélas, à l'époque, la longueur du câble reliant la lampe à la batterie est d'environ 60 cm. Quant aux dimensions, celle-ci avoisinait 12,5 cm de largeur et de 13 cm de longueur. Autre invention de l'époque, nous retrouvons le Jerrycan. C'est une invention allemande parue peu de temps avant la guerre à la demande d'Adolf Hitler et utilisée durant la Seconde Guerre mondiale par la Wehrmacht. En 1940, les Britanniques, grâce à Paul Place, reprennent l'invention allemande pour approvisionner également leurs véhicules. Le nom veut tout simplement dire bidon de Jerry. Le prénom Jerry servait déjà lors de la Première Guerre mondiale pour rabaisser les Allemands. C'est comme le mot Bosch pour nous. Saviez-vous que les Anglais trouvaient que le casque allemand retourné ressemblait beaucoup à un pot de chambre qui se dit en argot anglais Jerry? Ce bidon en acier peut contenir une vingtaine de litres de carburant pour assurer le déplacement des véhicules de guerre, les tanks, les Kubelwagen, il s'agit de légers véhicules de guerre. C'est ainsi que les Anglais ont commencé à développer des bidons capables de contenir des liquides capables de ravitailler les troupes armées en eau potable.
Voici, chers auditeurs, un progrès étonnant et surprenant. En 1941, la SOE, un service de secret britannique, développe l'idée détonante des rats explosifs. Après en avoir acheté plus d'une centaine, les officiers les ont vidés, puis remplis d'explosifs reliés à une petite mèche avant de les recoudre. Le but était de les disséminer dans les usines à charbon allemandes. Ainsi, pour se débarrasser de simples cadavres de rongeurs, les soldats jetteraient ces rats morts dans le feu, provoquant ainsi des explosions et de graves dommages à la machine de guerre allemande. Malheureusement, le conteneur rempli de ces rats explosifs a été intercepté par les Allemands avant leur utilisation. Malgré tout, les Allemands ont cru que d'autres de ces conteneurs avaient déjà été utilisés par les Alliés et ont alors commencé à entreprendre une chasse aux rats explosifs, en expliquant aux jeunes Allemands la marche à suivre à chaque fois qu'ils découvraient un rat mort quelque part.
Non, non, le rat, il... ah !
Mais maintenant, revenons à des choses un peu plus sérieuses. Suite à l'essor des Alliés, les Allemands ripostent avec le V1, un missile de croisière développé par Robert Lucer, de la société d'aéronautique allemande Fiesler en 1942. Malgré sa vitesse et sa portée impressionnante, le V1 manque de précision et possède une charge explosive minime, ce qui le rend moins efficace qu'anticipé par les Alliés. Néanmoins, son effet psychologique est notable, provoquant la panique chez les civils lorsque son moteur s'arrête juste avant l'impact. Utilisé de juin 1944 à mars 1945, il est suivi par le V2, premier missile balistique qui ouvre la voie à des avancées technologiques majeures, notamment dans le domaine des armes nucléaires et des lanceurs de fusées, jouant un rôle précurseur dans l'ère spatiale de la guerre froide. Malgré cela, le V2 est également considéré comme un échec, en raison de son faible impact comparé aux ressources investies dans sa fabrication. Après la guerre, les États-Unis récupèrent les connaissances des scientifiques allemands, dont Werner von Braun, pour développer la NASA.
Poursuivons. La Seconde Guerre mondiale se caractérise également pour ses innombrables avions plus ou moins originaux et performants aux innovations hallucinantes. Aujourd'hui, nous avons souhaité vous présenter le Boeing B-29 Super Fortress qui est apparu en 1944, pouvant peser jusqu'à 60 tonnes. C'est en réalité un bombardier lourd quadrimoteur à hélice inventé puis utilisé par les États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. Le B-29 est l'un des plus gros avions utilisés lors de ce conflit, mais également l'un des plus chers. Cet engin, à la pointe de la technologie de l'époque, est le premier bombardier américain à recevoir une cabine pressurisée ainsi qu'un système de tourelles contrôlées à distance. L'une des dernières missions du Boeing B-29 au cours de la Seconde Guerre mondiale est de réaliser les bombardements atomiques de Hiroshima le 6 août 1945 et de Nagasaki 3 jours plus tard. Le B-29 sera utilisé encore un peu après la guerre dans le cadre d'activités civiques ou encore lors de la guerre de Corée de 1950 à 1953, lors de la guerre froide opposant le bloc de l'Ouest au bloc de l'Est. Continuons l'histoire. Les États-Unis entrent en guerre le 7 décembre 1941 suite à l'attaque de leur base militaire le Pearl Harbor par l'armée japonaise. En septembre 1942, le président Roosevelt demande à un certain physicien renommé, le professeur Julius Robert Oppenheimer, de mettre au point une bombe à capacité atomique dans le but d'anéantir l'auteur de cette attaque qui détruira une partie de la flotte américaine et fera de nombreuses victimes. Suite à la capitulation allemande le 8 mai 1945, l'Empire du Soleil Levant deviendra l'ennemi principal. Cette bombe atomique est en réalité une bombe de 3 mètres de long, pesant aux alentours de 4 tonnes, dont 64 kg d'uranium-235, le seul isotope capable de se fragmenter sous l'effet d'un neutron. D'après le musée de l'armée, cette arme destructrice a une puissance estimée à 12 kilotonnes, soit l'équivalent de 15 000 tonnes de TNT. Construite en 2 exemplaires sous les ordres du président de l'époque, elles seront larguées sur les villes de Hiroshima le 6 août et Nagasaki le 9. Elle provoquera la destruction et la mort de centaines de milliers de Japonais. L'empereur de l'époque décidera par la suite de signer la capitulation, mettant ainsi fin à la Seconde Guerre mondiale.
Je vous propose maintenant, chers auditeurs, de passer sur un plan un peu plus médical, en commençant par une révolution qui a sauvé beaucoup de vies. L'un des premiers antibiotiques, la pénicilline. On doit d'ailleurs sa découverte à un coup de chance, car le biologiste Alexander Fleming a été interpellé par de la moisissure dans une de ses boîtes de pétri avec laquelle il travaillait avant ses vacances. Une expérience un peu ratée, en résumé. Sauf qu'à son retour, en l'examinant de plus près, il se rendit compte que les souches bactériennes avaient disparu, comme éliminées par un champignon, le pénicillium. Dès 1929, il travaille avec les scientifiques Ernest Chain et Howard Florey pour trouver la formule idéale et développer à grande quantité la pénicilline. Car ils avaient prouvé que cet antibiotique était très efficace sur les maladies infectieuses très présentes à l'époque, comme le typhus, ou un peu plus connu comme les bronchites ou les méningites. Ce n'est qu'en 1940 qu'ils pourront produire cette solution miracle en masse pour ravitailler les soldats sur le front. La pénicilline reste à ce jour l'un des antibiotiques les plus utilisés dans la vie courante. Patient suivant. En 1940, les chercheurs Karl Landsteiner et son collègue Wiener découvriront le rhésus à partir d'expériences sur une race de macaques. Une révolution dans l'étude du sang. Il rend ainsi les transfusions sanguines plus sûres, car les dons de sang jusqu'alors étaient à risque pour certains types de sang qui ne peuvent pas être transmis à d'autres sans mettre le receveur en danger. Au même moment, Charles Richard Roux organisa la première « banque de sang », qui est un terme générique pour regrouper la collecte, la préparation, la gestion et la distribution du sang humain pour ravitailler les soldats britanniques.
Quoi de neuf, docteur ?
Finissons en 1942. L'armée américaine crée un système médical divisé en trois parties. D'abord les unités chirurgicales mobiles, ou PSH en anglais, qui prodiguent les soins directement au front. Par la suite, il y a les hôpitaux de campagne, Field Hospital, qui sont installés à quelques kilomètres des zones de combat, et les General Hospital, qui sont des hôpitaux traditionnels en dur. Ce mode de fonctionnement a permis par la suite de créer les MASH, qui seront utilisés durant la guerre de Corée et permettront un taux de survie de 97% des soldats blessés. De plus, les médecins Eric B. Waters et Desmond Bill découvriront ce qu'ils appellent le syndrome de B. Waters en 1944, qui démontre que les victimes ensevelies sous les décombres développent des insuffisances rénales et mettent en place un traitement pour limiter ce syndrome. Et voici la fin de notre émission sur les 10 progrès marquants de la Seconde Guerre mondiale. Nous espérons sincèrement que vous avez aimé découvrir et apprendre avec nous sur cette époque qui a révolutionné le monde des sciences sur toutes ses facettes.
Suite au débarquement des Alliés et des forces françaises libres le 6 juin 1944, la France est libérée, l'Europe est libérée et le monde retrouve une paix qui ne fera malheureusement pas long feu. Mais avant de nous quitter, j'aimerais vous citer tout de même une phrase culte du général de Gaulle, sauveur de la nation, lors de son discours à Paris à l'Hôtel de Ville à l'occasion de la libération de la capitale le 25 août 1944. « Paris outragé, Paris brisé, Paris martyrisé, mais Paris libéré. »
Merci beaucoup de nous avoir écoutés et à très vite pour de nouvelles aventures au cœur de l'histoire.
Luna et Erwin présentent les grands progrès technologiques et scientifiques au cours de la Seconde Guerre mondiale, une guerre d'anéantissement.
Forstin Radio. On n'est pas 27, mais ça en jette.
Alors, c'est qui la meilleure radio ?
Forstin Radio !
Forstin Radio, la plus belle radio de Forges-les-Eaux.